dirasa Milana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour, bonsoir, selon votre position géographique, nous sommes dimanche le 6 février 2022. C'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. À la présentation, Joséphine Jansson-Guzimana, tout de suite et les détails. Commémoration ce samedi du 31e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale. Selon Emery Pacifique Guilaneza, président du mouvement Mapevu Rundiwire, l'Unité Nationale est loin d'être pérennisée tant qu'il y a des Burundais qui vivent dans la peur d'être persécutés. Selon lui, cette journée de la commémoration de la Charte de l'Unité Nationale, malgré le discours du président de la République qui fait appel aux réfugiés de rentrer pour construire le pays, tant que le parti au pouvoir CNDD-FDD continue de malmener ceux de l'opposition et de diviser pour régner, l'Unité Nationale est loin d'être proclamée au Burundi. On l'écoute.
Ce que nous constatons, c'est que le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, le Burundi, a vraiment mis de côté cette charte de l'unité nationale. C'est comme si ils n'ont pas cette foi en la charte de l'unité nationale. Ils n'ont pas vraiment la volonté d'unifier les Burundais. En fait, ils font le contraire. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est diviser les Burundais à base ethnique ou régionale. Vous savez très bien que maintenant, si vous ne faites pas partie du parti au pouvoir, c'est comme si vous n'êtes pas vraiment digne d'être Burundais. Alors, vous savez aussi que la CVR, c'était Commission Vérité et Réconciliation, vient de publier un rapport là où ils disent que le génocide des Hutus de 1972 est vraiment accepté par cette commission, qu'ils ont fait des recherches et que c'est cela et leur conclusion. Nous savons très bien que, tout d'abord, c'était une maladresse d'approche lorsqu'ils ont proclamé ça. Nous savons tous que les Burundais se sont entretués en 1972 et nous savons très bien qu'il y a aussi d'autres crimes graves avant 1972. Cette précipitation des choses pour conclure sur 1972 avant toute autre période et vraiment pose beaucoup de questions, mais aussi nous savons très bien que c'est une intention du gouvernement pour en fait intensifier cette volonté de diviser les Burundais, de satisfaire les uns et de rendre les autres mécontents. Une politique de diviser pour régner. Nous savons très bien que les membres du parti SNL, par exemple, sont maltraités, sont torturés.
Le rapatrié Isaac Bamurusa Yasatango, enlevé depuis le 30 décembre de l'année passée, 2021, après deux semaines de son rapatriement, les informations que nous détenons des sources de la radio Inzamba au sein du bataillon police militaire indiquent qu'il est en détention dans la cellule de ce bataillon. Les mêmes sources révèlent qu'il a été horriblement torturé et que sa santé serait dans un état critique. Depuis le jour de son enlèvement, aucun proche ne l'a jamais revu jusqu'à ce jour. Plus de détails avec Georges Nimenia.
Les informations que nous détenons des sources de la radio Inzabagate à Kawe, au sein du bataillon police militaire à Bujumbura, dans les proximités du mess des officiers garnison Bujumbura, faut savoir que le rapatrié Isaac Bamurubusa, Siromé Tango, natif de la colline Kibungo, dans la commune Bugendana de la province Gitega, est en détention dans la série du bataillon. Les mêmes sources révèlent que depuis le jour de son enlèvement, le 30 décembre 2021, il a été gardé dans différents endroits, puis il a été horriblement torturé. Certains des militaires de son bataillon précisent qu'il n'y a pas longtemps qu'ils l'ont vu dans son bataillon et qu'il était dans un état critique de santé. Isaac Bamurubusa est un rapatrié qui a décidé de son gré de quitter la vie d'exil au Rwanda après 4 ans de séjour. Il était rentré le 15 décembre 2021. Avant de fuir le pays, il était dans l'armée qu'il avait servi pendant plus de 20 ans au grade de caporal chef et chauffeur de fonction. Il avait été incorporé dans l'armée au nom de Gedeon Karikurubu. Il avait été chauffeur du ministre de la Défense nationale, Emmanuel Naumvukiye. Les informations qui parviennent à la rédaction de la radio Inzambagate à Kawe, faut savoir qu'il avait été enlevé par les services de renseignement militaire G2. Certains des militaires demandent sa traduction en justice une fois qu'il y aurait des informations qui pèsent sur sa tête. L'enlèvement des personnes récemment rapatriées est devenu comme un modus operandi au service des renseignements du Burundi et celui de l'armée G2. Des cas similaires ont été déjà reportés en Ngozi, Kirundo et ailleurs. Ces cas démontrent que la rhétorique gouvernementale qui appelle les gens en exil de rentrer est contraire à la pratique des agents de l'État sur la sécurité des rapatriés. À la rédaction de la radio Inzabagatera Kawe, nous avons essayé de joindre par téléphone le lieutenant-colonel de France Baranyikwa, commandant du bataillon police militaire, ou Gedeo Karikuru, appelé également Isaac Wamorusa, est détenu pour éclairer l'opinion sur les révélations des militaires sous sa responsabilité, mais sans succès.
Parlons de l'insécurité dans la sous-région où l'armée burundaise est accusée par un député de la République démocratique du Congo d'avoir commis des violations graves des droits humains sur la population civile congolaise dans des affrontements qui ont opposé l'armée burundaise avec les mouvements rebelles dont Red Tabara dans les hauts plateaux et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Cela transparaît dans une correspondance que le député Misare Mugumbegwa Claude vient d'adresser au secrétaire général des Nations Unies pour se saisir du cas dans les meilleurs délais. Les détails avec Josine Kadze.
Dans cette correspondance adressée au secrétaire général des Nations Unies, le député Misale Mugombegwa Claude déplore que dans les affrontements qui ont opposé l'armée burundaise avec les rebelles burundais dont Red Tabara sur le sol congolais dans les hauts plateaux et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga, l'armée burundaise a tué des civils congolais. Ce député parle de 70 civils tués, 17 villages incendiés et des tueries ciblées qui visaient certains chefs coutumiers. Pour lui, l'armée burundaise, en s'introduisant sur le sol congolais, a violé les conventions internationales.
À travers cette missive, je voudrais alerter l'ONU sur l'agression dont la RDC est victime et les violations graves des droits de l'homme commises par les éléments des forces de défense sur le sol congolais, en violation du point A de la résolution 2625 qui dispose que les États s'abstiennent dans leurs relations interétatiques de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec le but des Nations Unies, et que l'ONU doit se saisir de cette affaire conformément à l'article 39 de la charte de l'ONU. Voilà ce que nous attendons de l'ONU.
Ce député interpelle les Nations Unies à prendre en main cette question si épineuse pour éviter une effusion de sang.
Et pour que les choses soient tirées au clair, je demandais à l'ONU de diligenter une enquête indépendante des experts de l'ONU afin de bien établir les responsabilités et d'introduire une plainte à son égard. À appliquer les articles 41 et 42 de la charte de l'ONU en adoptant des sanctions ciblées contre tous les dignitaires burundais trempés dans cette histoire. Inviter également le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre en urgence une résolution contre les actes flagrants de crimes d'agression commis dans les territoires de Fizi, Uvira et Mwenga conformément aux dispositions de l'article 39 de la Charte des Nations Unies.
Vous saurez que dans le territoire de Fizi, il y a plus de 4000 réfugiés burundais et ce député se pose la question de savoir ce qui adviendrait à ces réfugiés si une fois ce territoire tomberait dans les mains de l'armée burundaise et leurs alliés.
Vous saurez que ces combats n'ont pas encore cessé. Différentes organisations de la société civile congolaise avaient déjà décrié la présence de l'armée burundaise sur le sol de la RDC, chose que le ministre de la Défense burundaise a fortement niée. Vital Shimilimana, président du Forum pour le renforcement de la société civile FORSC, estime que le ministre de la Défense devrait être interrogé sur la présence des forces armées burundaises sur le sol congolais. Il s'inquiète sur la responsabilité des crimes causés par ces affrontements. Écoutez Vital Shimilimana, président du FORSC.
À ce jour, nous sommes également fondés à nous poser des questions concernant la responsabilité des crimes qui seront occasionnés à l'occasion de ces affrontements sur le territoire de la République démocratique du Congo. Parce que chaque fois qu'il y a une guerre, quand il y a des affrontements entre les armées, il y a des pertes en vies humaines. Il y a des crimes aussi qui sont commis, notamment à l'endroit des civils qui ne participent pas au combat. Et à ce niveau, il peut y avoir des meurtres, des assassinats, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et d'autres crimes de droit international. Et chaque fois qu'il y a des crimes Il doit y avoir une responsabilité individuelle ou étatique. Et quand il y a une responsabilité étatique qui est engagée, il revient à l'État qui est responsable de ces atrocités d'en répondre, notamment sur le plan pénal, mais aussi sur le plan de réparation. Donc, il revient à plusieurs groupes de personnes ou d'institutions à poser la question pour savoir la vérité et pour empêcher que l'État du Burundi continue à opérer de cette manière. Il en est de la responsabilité des députés qui sont les représentants du peuple, et comme l'a fait le député congolais qui a déjà saisi les Nations Unies pour les crimes commis sur son territoire. Donc, les membres du Parlement burundais devraient aujourd'hui demander au gouvernement du Burundi, au président de la République, au ministre de la Défense, au chef de la Défense nationale, d'expliquer les raisons de la présence de l'armée burundaise à la République démocratique du Congo.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Parlons économie à présent. Une décision de hausse des prix de transport public est prise le 1er février par une commission du ministère du Commerce a été annulée par le ministre du Commerce. Cela transparaît dans une correspondance du ministre adressée ce vendredi à cette commission. Le ministre a expliqué que cette décision a été prise par une commission qui n'en a pas les prérogatives. Les détails avec Beni Akselakana.
Dans cette correspondance, la ministre du Commerce et du Transport dit être surpris de voir circuler sur les réseaux sociaux une décision de hausse des prix de transport public. Marie-Chantal Nijimbede a ainsi convoqué par la suite les membres de cette commission pour donner toute la lumière relative à cet état de fait. Selon cette correspondance, les explications fournies par la commission ne sont pas du tout convaincantes. Selon toujours la ministre du Commerce, cette décision regorge de nombreuses irrégularités, dans le non-respect de la procédure de convocation d'une réunion, l'absence de concertation avec les autorités hiérarchiques et des autres intervenants dans ce secteur. Cette correspondance indique que cette hausse des prix n'a pas pris en compte tous les paramètres qui entrent en jeu, comme l'état actuel des routes. Cette décision aurait également dû être une proposition à soumettre au ministère du Commerce pour appréciation et décision. Après analyse de toutes ces irrégularités, la ministre du Commerce a annulé cette décision de hausse des prix du transport. Elle recommande aussi à cette commission de refaire une proposition en tenant compte notamment des critères de hausse des prix du carburant. Pour rappel, la commission avait décidé d'augmenter de 25% le prix de transport vers l'intérieur du pays et de 100 francs burundais le prix du transport en mairie de Bujumbura.
L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, conteste que ce dysfonctionnement démontre qu'il y a des gens puissants et qui gouvernent en cachette. Écoutez Gabriel Rossi.
En revenant sur le dysfonctionnement, nous voyons et nous regrettons des directeurs généraux peuvent se réunir et décider sans que l'autorité hiérarchique ne soit pas au courant. Donc, nous craignons que par rapport à ces décisions que le ministre vient d'annuler, risque de tomber à l'eau, de ne pas avoir des résultats escomptés, parce que nous voyons qu'il y a des gens qui gouvernent, mais malheureusement qui ne sont pas visibles. C'est ce que nous constatons, parce qu'il y a des décisions qui sont prises, mais qui ne sont pas exécutées. Donc, attendons voir, et on espère peut-être que les choses pourront avancer normalement. Mais si tel n'est pas le cas, eh bien, ça va être dans l'ordre d'autres décisions qui ont été prises mais qui n'ont pas été exécutées malheureusement.
Au chapitre des droits de l'homme, 6 personnes accusées d'avoir trempé dans l'assassinat d'un gamin albinos ont été entendues au tribunal de grande instance de Tchangzo ce mercredi. Rappelons que ce petit garçon avait été enlevé chez lui à Kinama, en mairie de Bujumbura. Le dimanche passé, les ravisseurs ont été interpellés dans la réserve naturelle de la Louvourou en train de découper en morceaux le corps de ce jeune garçon albinos. La chasse et l'assassinat des albinos au Burundi est une pratique obscurantiste qui est entretenue par les conditions d'arriération socioculturelle et de pauvreté extrême de la population. Avis de Paul Ngunzimana, sociologue. Pour décourager ce phénomène, c'est notre professeur d'université il faut impérativement un programme d'éducation de la société sur ce phénomène et la répression de l'ensemble des crimes et en particulier ces actes obscurantistes. Suivez-le.
Cette tuerie qui vise de manière spécifique des albinos est en fait qui renvoie à une société arriérée, une société décomposée et qui en même temps engendre, disons, une certaine arriération socioculturelle de la population. Donc ceci fait que au niveau de la société, il y a disons la création de mythes autour de certains phénomènes. Ici dans l'exemple précis, l'albinisme, dont tout le monde sait bien qu'il s'agit d'une maladie héréditaire qui se trouve liée directement à l'hypopigmentation de la peau, des yeux, des poils, des cheveux, etc. Et les auteurs de ces crimes se trouveraient récompensés à partir, disons, de crimes rituels ou des parties du corps de la victime, des organes, etc., sont vendus à des individus qui eux-mêmes font partie, disons, des groupes qui mettent en avant ces pratiques obscurantistes et qui se trouvent en même temps, disons, organisés dans ce type de société. Ici, évidemment, la question, c'est que faire pour éradiquer ce genre de phénomène? En premier lieu, il faut absolument mettre en œuvre un vaste programme d'éducation de la société. Donc, ça veut dire que la population doit être éduquée sur ce phénomène, à savoir que les albinos sont des gens comme les autres, à savoir que les albinos sont frappés par une maladie et que, en fait, plutôt que d'être malmenés, maltraités et même éliminés physiquement, deuxièmement, évidemment, il s'agit de réprimer ces actes obscurantistes, ou les croyances et les pratiques obscurantistes de tout genre, et aussi réprimer l'ensemble des crimes qui se commettent au niveau de la société, que ce soit ces crimes contre les albinos, des crimes rituels de tout genre, des crimes de sang, y compris même les crimes économiques.
Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. Passez un bon dimanche chez vous.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.